turning today to the third letter of John. Third John.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans la troisième épître de Jean. 3 Jean au verset 1. L'ancien, à Gaius, le bien-aimé, que j'aime en vérité. Et le titre que j'aimerais donner à ce message ce matin, c'est « Corriger le ministère ». Si nous pouvons considérer toute cette épître en une seule étude ou non, je ne suis pas sûre, mais nous allons essayer. Et il y a beaucoup de choses pratiques dans cette troisième épître de Jean. C'est remarquable et profond. Et je commence avec ce point, le progrès personnel qui est pris au sérieux. Et vous voyez ceci dans les premiers versets de cette épître. Combien l'apôtre Jean prend ces choses au sérieux. Le progrès personnel, le progrès spirituel. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, de nos jours. Le progrès spirituel et personnel n'est pas toujours pris au sérieux. Et si je peux commencer avec des souvenirs d'il y a bien des années, où j'étais un jeune chrétien, j'étais dans une église, une grande église, où il y avait un ministère tellement profond, mais il y avait un problème. C'est que le progrès spirituel, personnel, ne semblait pas être vraiment souligné. Et si les gens ne venaient plus à l'église, ou qu'ils n'étaient pas très réguliers, ou qu'ils erraient du chemin, personne ne remarquait réellement, personne ne les encourageait, personne ne se souciait ou ne les aidait. Il n'y avait pas de ministère personnel pour ces gens. Et j'ai remarqué ces choses dans le peu de temps où j'étais dans cette église. Le ministère était puissant et excellent, mais cette attention pour les personnes, les individus, était presque absente. Je ne vais pas mentionner des noms, parce que toute église peut tomber dans ces choses, tout le monde, mais vous pouvez souligner que la première chose qui est amenée dans cette troisième épître de Jean, c'est de souligner le progrès des individus. Et nous devons souligner notre propre progrès et nous aider l'un l'autre. Jean, il a à peu près 90 ans. Il écrit entre 90 et 95 après Jésus-Christ. Il est le dernier apôtre en vie à ce moment-là. Probablement, il est à Éphèse à ce moment-là, où il semble avoir exercé son ministère à la fin de sa vie, et il écrit à Gaius, qui est dans une église qui est probablement pas très loin d'Éphèse, probablement à 30 kilomètres. L'ancien à Gaius, le bien-aimé. Nous ne savons rien d'autre par rapport à Gaius, uniquement ce que nous lisons dans cette épître, que j'aime en vérité. Et alors que vous lisez cette lettre, vous voyez beaucoup de preuves pour croire que Gaius a exercé l'hospitalité envers l'apôtre Jean dans des occasions précédentes ou peut-être même un certain nombre de fois. Et il a reçu des prédicateurs dans sa maison, des prédicateurs que Jean a envoyés, que l'église d'Éphèse a envoyés, qui ont été recommandés par l'église d'Éphèse et qui prêchaient dans les villages pour essayer de commencer des églises dans ces différents villages. Il est bien connu de Jean. Il ne semble pas que Gaius est un membre de cette église dans laquelle il a été associé. Parce que, comme nous le verrons plus tard, il y a une personne nommée Diotrephe qui a excommunié des gens comme Gaius qui acceptaient des prédicateurs et qui a ouvert sa maison pour les prédicateurs. Il n'approuvait pas cela, mais il est recommandé par l'apôtre Jean. Et au verset 2, « Bien-aimé, je souhaite qu'à tous égards tu prospères et sois en bonne santé. » Et peut-être que dans votre version, ceci suggère « Je prie ». Et c'est une meilleure traduction, une meilleure idée de ce que Jean voulait dire « Je prie ». en particulier pour que tu puisses prospérer. Et ce terme en grec est un terme intéressant. C'est avancer et faire un bon voyage sur le chemin. C'est un terme composé qui est traduit ici par « tu prospères ». Ceci, de nos jours, peut-être, nous fait penser que Jean prie pour que cette personne, pour que Gaius gagne beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire, c'est qu'il puisse continuer sur le chemin, en bonne santé. Pourquoi est-ce qu'il priait pour la bonne santé de Gaius? Parce qu'il faisait beaucoup de choses pour le Seigneur, parce qu'il s'occupait des prédicateurs qui voyageaient, des prédicateurs itinérants, les missionnaires, si vous voulez, et il les a aidés. Ainsi, Jean est bon envers lui. Et c'est intéressant dans ce verset 2, « Je souhaite, je prie, qu'à tous égards tu prospères et sois en bonne santé, comme ton âme est en prospérité, et fais beaucoup de progrès sur ton chemin. Elle fait un bon voyage, elle avance et progresse la bonne manière. » Il n'avait pas besoin de prier pour cela, mais sans aucun doute, il priait également. Gaius était un exemple qui resplendissait pour Christ et quelqu'un qui voyageait bien spirituellement, qui avançait spirituellement, qui faisait un bon voyage. Vous avez deux parties de votre vie ici, votre bien-être, votre travail, votre famille, votre vie familiale et tout ce qui est en relation avec notre santé, notre force, notre confort. Et Jean priait pour Gaius parce qu'il était aimé des enfants de Dieu et du Seigneur lui-même et il accomplissait beaucoup de choses pour le Seigneur. Oh, si seulement nous pouvions dire ceci de chacun d'entre nous. Nous espérons que vous êtes en bonne santé et que vous soyez prospères d'une manière raisonnable. Ne priez pas pour de grandes richesses parce que ceci peut complètement vous faire chuter. Pour beaucoup d'entre nous, ceci serait un piège. Ne priez pas pour la prospérité, mais pour avoir suffisamment chaque jour, pour être de bons chrétiens, pour servir le Seigneur. C'est tout ce que nous demandons. Et la bonne santé, oui, pour le service du Seigneur, pour que notre vie soit pour le Seigneur. Il y a deux aspects. Et qu'en est-il de votre âme? C'est là le deuxième aspect. Verset 3, « Car j'ai eu bien de la joie. » Du témoignage que des frères, c'est là les prédicateurs itinérants, sans aucun doute, arrivés ici, ils sont revenus de leur long voyage missionnaire et ils ont dit, Gaius nous a accueillis dans un tel endroit et nous témoignons de la vérité, la fidélité de Gaius. Et il disait en privé, « Oh, ce Gaius, il nous a encouragés. Il est profond dans la parole de Dieu. Il comprend toutes choses et il nous a donné tant de bons conseils. Et quand nous étions découragés, il nous a encouragés dans notre âme. Il nous a accueillis et il avait toutes sortes de bonnes choses qu'il nous a dites et il a pourvu pour nous. Et nous lirons plus tard. » Il nous a envoyés sur le chemin. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour notre prochain voyage. Il était ferme et il était une aide. Il est converti réellement. Et il s'est converti par le ministère de Jean. Et il prospère, il grandit, il apprend. Est-ce que nous apprenons également? Est-ce que nous apprenons du Seigneur jour après jour, semaine après semaine dans la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes sanctifiés? Est-ce que nous combattons contre le péché? Est-ce que nous recherchons l'aide de Dieu? Est-ce que nous gardons la vision du service pour le Seigneur comme étant notre priorité? Et ainsi, nous ne sommes pas complètement épuisés par notre famille, par notre travail, notre profession, parce que le Seigneur est ce qui est important pour nous. Est-ce que nous passons toutes ces difficultés de la vie avec l'aide du Seigneur? Chaque chrétien dans ce bâtiment aura dans les jours à venir, dans les semaines à venir, des difficultés. C'est la volonté de Dieu pour nous, sans aucun doute. Certaines épreuves, certaines difficultés qui vont venir dans notre vie, peut-être que ceci va être un défi pour nous et nous devons répondre de la bonne manière. dans la foi, en nous attachant au Seigneur, en priant pour son aide, en faisant les bonnes choses pour lui, par le Seigneur, par sa parole. Vous aurez une épreuve, un test. Est-ce que vous allez réussir? Gaius passait par ces épreuves et il réussissait. Et il était fortifié chaque fois. Et dans notre Église, qu'en est-il de votre progrès spirituel? Est-ce que vous avez erré du chemin? Vous êtes simplement ici le dimanche matin. Vous n'êtes pas ici pour l'étude biblique. Vous n'êtes pas ici pour soutenir la réunion de prière, pour prier pour les âmes. Qu'en est-il de votre progrès spirituel? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à vous? Est-ce que vous prospérez? Est-ce que vous prospérez dans vos affaires, dans votre travail? Mais qu'en est-il de votre âme? Comme ton âme est en prospérité et fait un bon voyage, car j'ai eu bien de la joie. Jean est si sincère. Il y avait tant de gens qu'il avait à l'esprit, comme l'apôtre Paul. Tant d'églises pour lesquelles il priait. Et il remercie toujours le Seigneur pour cette bénédiction et était touché par ceux qui se tournaient vers Christ. Car j'ai eu bien de la joie du témoignage que des frères arrivés ici ont rendu à ta fidélité et à la manière dont tu marches dans la vérité. Cette marche ferme, constante. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Jean a toujours été ferme pour le Seigneur, même quand il avait 90 ans, et chaque fois qu'il entendait la nouvelle de Jean qui était converti par son ministère, oh, il remerciait le Seigneur et il se réjouissait. Ainsi, vous voyez que Jean souligne le progrès spirituel dans les premiers versets. Et à partir du verset 5, j'aimerais parler d'un autre sujet de cet épître. La responsabilité missionnaire des églises. Il y a des chrétiens que je connais et qui pensent que l'œuvre missionnaire d'une église est quelque chose de secondaire. Ce n'est pas leur intérêt premier, même des chrétiens qui sont fidèles au Seigneur. Par exemple, les réunions d'évangélisation, prêcher l'évangile, l'école du dimanche pour les enfants, parler du Seigneur à la communauté. Oh, ce n'est pas quelque chose de secondaire dans le Nouveau Testament. Il y a plusieurs versets ici dans cette épître qui nous montrent l'importance essentielle de cette responsabilité d'évangéliser au-delà des limites de notre Église. Et ceci est là au verset 5. « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et pour les étrangers. » Ceci commence ce passage qui parle de l'œuvre d'évangélisation. Au-delà de l'Église en particulier, Gaius recevait les prédicateurs et il les accueillait. Dans ces jours-là, dans cette région, l'évangélisation était accomplie en particulier par des prédicateurs itinérants qui voyageaient et qui commençaient des églises dans les villages, dans les villes, partout. Et il était important de les accueillir, de leur donner de la nourriture, de prendre soin d'eux. « Bien-aimé, tu agis fidèlement. » C'est un acte fidèle, c'est une fidélité envers Dieu dans tout ce que tu fais pour les frères et pour les étrangers. Le sujet n'a pas changé réellement. Ceci parle des prédicateurs, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Certains, Gaius les connaissait bien, il les avait déjà accueillis auparavant. Ils viennent de ta propre église, d'Éphèse par exemple. Ils sont recommandés peut-être par l'apôtre Jean. Mais il y en a d'autres qui ont été recommandés et que Gaius n'avait jamais rencontrés auparavant. Mais tu les accueilles, l'un et l'autre. S'ils œuvrent pour le nom du Seigneur et qu'ils sont recommandés et des prédicateurs qui sont fidèles au Seigneur, ils les accueillent. Au verset 6, on sait peu par rapport à ces prédicateurs. Ils ont rendu témoignage à ton amour en présence de l'Église. Ils sont revenus à Éphèse, ils ont parlé à Jean et à d'autres personnes. Ils ont mentionné en particulier Gaius. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Il a payé pour leur voyage, pour leur prochaine étape dans le voyage. D'une manière digne de Dieu, ceci signifie d'une manière digne de Dieu lui-même. en grec. Tu t'occupes d'eux comme si Dieu s'occupait d'eux. Parce que tu es utilisé par lui, tu es son représentant, c'est là ton appel, c'est là ta mission, ta responsabilité, c'est la chose la plus importante. Tu feras bien. C'est là une recommandation extraordinaire de l'apôtre Jean. Tu feras bien. C'est là la manière par laquelle tu dois servir le Seigneur. C'est là ta responsabilité. L'évangélisation, au-delà de l'Église elle-même, ceci est essentiel. Et c'est là ce que tu fais dans ta communauté. Et ensuite, vous lisez un peu plus par rapport à ces prédicateurs itinérants. Oh, si seulement les évangélistes étaient pareils de nos jours, ceci est important pour nous car ils sont partis pour son nom sans rien prendre des non-juifs, pour son nom, pour prêcher l'œuvre de Christ, ses attributs. Ils sont partis, ceci est important. Ils ont laissé leur maison, leur confort à la maison, ils ont abandonné leur routine, leur famille dans beaucoup de cas. Et ils ont pris beaucoup de risques. Et c'était une vie difficile. Ils sont partis. Ils n'ont rien pris des non-juifs. Ils dépendaient uniquement de l'hospitalité des chrétiens d'endroit en endroit. Et parfois, comme l'apôtre Paul, ils ont connu, même l'apôtre Paul, il a connu des temps de privation, de besoin. Et il continuait à prêcher l'évangile. Est-ce que les serviteurs du Seigneur pourraient être ainsi de nos jours? Le ministère du Seigneur, c'est un ministère de sacrifice. Le pasteur ne doit pas forcément être pauvre, mais il ne doit pas être riche. Dans le luxe, oh, ceci me surprend toujours tellement quand j'entends parler de pasteurs, même réformés aux États-Unis. Je ne sais pas s'il y en a en Angleterre. Mais certains, ils gagnent $1 million par an. Je suis bouche bée quand j'entends ceci. $1 million par an pour prêcher l'évangile? Il est un prédicateur connu. Peut-être qu'il croit les bonnes choses. Sauf ceci. Et il est réformé peut-être. $1 million par an. Un frère en particulier. Il est un bon prédicateur. Et il est réformé également. Mais il est comme un directeur, manager. Moi, je pensais que les présidents et les premiers ministres avaient des responsabilités de la sorte. Il est venu me voir. Et cette personne gagnait plus qu'un juge de la Cour suprême de ce pays. Ceci est surprenant. Oh, la raison pour laquelle Gaius soutenait les prédicateurs itinérants, ceci inclut cette raison-là. Car ils sont partis pour son nom. Ils n'ont rien pris des non-juifs. C'était des hommes qui ont fait ce sacrifice pour le Seigneur, pour le ministère, pour l'Évangile. Ce sont là ceux que nous soutenons. Ce sont là ceux pour lesquels nous avons une autorité dans l'Écriture pour les soutenir. Ils n'ont rien pris des non-juifs. Si nous avons un programme télévisé, chers amis, que nous avons dans notre Église, nous n'allons jamais demander d'argent. Nous ne prenons rien des non-juifs. C'est un grand principe qui est là dans l'Écriture. Et c'est important dans 3 Jean et ailleurs dans l'Écriture. Même si peut-être nous allons avoir des difficultés et moins d'argent, mais nous ne pouvons pas demander de l'argent. Il y a tant de prédicateurs sur ces chaînes télévisées qui demandent de l'argent de tant de personnes. N'écoutez pas ces gens. Ignorez-les, parce qu'ils sont disqualifiés, ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Sans rien prendre des non-juifs, et au verset 8, nous devons donc recevoir de telles personnes, afin de devenir ouvriers avec eux pour la vérité. Ouvriers avec eux, c'est là le même terme qui est ailleurs dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul utilise beaucoup d'être ouvriers, ensemble, le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 10 également. Si vous donnez à un prophète un verre d'eau froide, vous avez la récompense d'un prophète. Vous êtes un ouvrier avec lui. aux yeux de Dieu. Vous êtes aussi important que lui. Gaius, l'apôtre Jean, le recommande et lui dit « Continue à soutenir ces ouvriers, accorde-leur l'hospitalité, accueille-les, paye pour leur prochaine étape dans le voyage. » Et aux yeux de Dieu, c'est comme si tu faisais partie d'eux parce que tu les aides. C'est un terme très fort. Afin de devenir ouvrier avec eux, quel privilège, des ouvriers avec eux pour la vérité. Ainsi, nous soutenons des pasteurs dans d'autres pays. Ce n'est pas simplement une œuvre secondaire de l'Église. C'est quelque chose qui est si important et essentiel. Et nous les soutenons. Et nous avons la récompense d'un prophète. Et nous les soutenons autant que nous pouvons. Et le Seigneur nous bénira, même en cela. C'est là notre responsabilité. Et nous lisons ceci dans 3 Jean. C'est si clair. Je ne vais pas dire plus par rapport à ces versets, mais j'aimerais en arriver à un troisième point. Parce qu'ici, au verset 9, vous avez le pasteur qui est un problème. J'ai écrit à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. En grec, ce terme « premier », c'est « il prend plaisir à être premier, il aime cela, il ne nous reçoit point ». L'apôtre Jean avait d'une manière évidente écrit à l'Église dont Diotrephe était peut-être le pasteur. Ceci n'est pas écrit, mais il semble que ce soit le cas. Et Diotrephe a rejeté sa lettre et il n'a même pas répondu. Ou du moins, c'est ce que ce texte semble impliquer. L'apôtre Jean, j'imagine, lui a demandé son aide pour pourvoir à certains prédicateurs qui allaient dans cette direction-là, envoyés par Éphèse. Mais Diotrephe n'était pas intéressé. Il ne voulait pas les recevoir. Cet individu arrogant qui dominait et qui, d'une certaine manière, est entré dans le ministère, était intéressé uniquement par les gens qu'il mettait en place lui-même. Ceux qui travaillaient pour lui, il aimait être en premier. Il aimait diriger toute chose. Et il n'a pas reconnu l'apôtre Jean comme étant un apôtre. Mais tout le monde reconnaissait l'apôtre Jean. Il était avec le Seigneur. Il a été appelé par le Seigneur. Le Seigneur lui a donné cette capacité de faire des miracles pour authentifier la parole de Dieu et le fait qu'il était apôtre. Ses lettres étaient inspirées par Dieu. Mais Diotrephe ne reconnaît pas le ministère apostolique de Jean. La parole à présent était complète dans la vie des apôtres. Toute la parole de Dieu a été écrite et complète. L'apôtre Jean, un apôtre, n'était pas reçu par Diotrephe, qui était arrogant et qui a rejeté ses lettres. Et il ne voulait pas aider les prédicateurs itinérants. Verset 10, « C'est pourquoi, si je viens, je lui rappellerai les œuvres qu'il fait en tenant des discours malins contre nous. » Un terme peut-être ancien, mais en grec, ce terme « discours malin », c'est beaucoup de paroles, un flot de paroles. Certaines traductions modernes ont décidé que c'était des paroles qui n'avaient aucun sens. Ce n'est pas ce que cela signifie, mais une personne qui parlait beaucoup avec un flot de paroles. Et il parlait contre Jean, contre son ministère apostolique et son autorité. Et son appel, en tenant des discours malins contre nous, pour détruire, pour blesser, pour discréditer l'apôtre Jean. Et que, ne se contentant pas de cela, il ne reçoit pas lui-même les frères. Il a rejeté les prédicateurs itinérants, et il est même allé plus loin, mais empêche ceux qui veulent le faire, comme Gaius probablement. Nous pouvons probablement supposer que Gaius était l'un d'eux et il les chasse de l'Église. Comment est-ce qu'il a fait ceci? Peut-être que Diotrephe a ignoré 1 Corinthiens chapitre 5 qui a été écrit 30 ans auparavant. Et tout le monde y obéissait dans les églises de Christ, comme nous le faisons de nos jours. Et il y a toutes les instructions là sur quoi faire si quelqu'un est un pécheur dans l'église. Les anciens, les diacres examinent les choses cas par cas, mais ils ne peuvent pas excommunier une personne, ils doivent se rassembler l'église. Il doit y avoir une réunion d'église, de membres. Et si quelqu'un doit être expulsé, si ceci est nécessaire, alors ceci doit être approuvé par tous. Mais ce Diotrèphe ne semble pas faire ceci de cette manière-là. Il ignore les Écritures. D'une certaine manière, cet homme qui aime dominer, il est arrivé à mettre tout le monde sous sa coupe pour croire que lui peut dominer. Peut-être que les autres diacres étaient trop faibles. Et au lieu d'être ancien avec lui, en lui disant « Mais attends un peu, ce n'est pas la volonté de Dieu ». Ce n'est pas ce que l'Écriture nous dit. Nous devons obéir à l'Écriture. Et lui, il a forcé sa propre volonté. Et ces prédicateurs qui visitaient d'Éphèse, il les a chassés. Et tous ceux qui les accueillaient également. Ceci est terrible. Ce qu'il y a ici, il n'y a pas de preuve que cet homme s'est comporté de cette manière-là dans d'autres églises. Mais cependant, vous avez comme un mini-pape ici, et vous commencez à voir que quelques personnes de ce genre dans le ministère, vous pouvez imaginer comment l'église de Rome, l'église catholique, a commencé en mettant de côté l'autorité de l'Écriture, en faisant de ces choses des choses secondaires, et par leurs propres décrets, en continuant ainsi avec des nouvelles doctrines qui n'étaient pas dans l'Écriture, qui étaient complètement contraires à l'Écriture. Peu de temps après, au 4e siècle, au 5e siècle, vous avez l'église de Rome catholique qui se forme. Et il y a des gens tels que Diotrèphe qui produisent ceci, des gens qui dominent, qui aiment être premiers. Et nous voyons ces choses de nos jours dans nos propres églises nationales, l'église anglicane, les congrégations locales n'ont pas de réunion d'église et d'anciens, de diacres. Ainsi, la personne qui est le prédicateur n'œuvre pas avec des anciens et des diacres pour s'assurer que toute chose qui est faite est toujours scripturaire. Non, il y a une hiérarchie. Il y a le pasteur, l'évêque, l'archevêque, etc. C'est une pyramide. Et ceci est organisé dans des synodes. Et c'est comme un parti politique qui opère dans ce synode et ils prennent les décisions eux-mêmes. Il ne consulte pas les Écritures. Ainsi, quand il voulait amener des pasteurs femmes, ceci est contraire à l'Écriture, alors ils ont demandé à l'évêque, à l'archevêque, et ils ont décidé par eux-mêmes dans le synode. C'est là ce qui se passe également dans cette Église. Ils n'obéissent pas à 1 Corinthiens 5, à 1 Timothée 3 pour ce qui qualifie le pasteur, et ils font leurs propres règles. Et ils insistent pour que tout le monde obéisse, sinon les gens sont expulsés. C'est ainsi que l'Église catholique a commencé, et nous l'avons dans l'anglicanisme. Bientôt, il y aura également le mariage homosexuel dans l'Église anglicane. Est-ce qu'ils vont revoir ceci dans la parole de Dieu? Non, ils ne vont pas consulter la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent, et ceci va être accepté au bout d'un moment. Et ils mettent de côté l'Écriture, c'est comme Diotrèphe qui entre dans l'Église. Ainsi, Jean reprend ceci et condamne ceci. Nous avons dans chaque congrégation des anciens qui aiment le Seigneur, des diacres, non pas une personne qui domine. Et Jean, s'il va les visiter, il va parler à Diotrèphe pour le reprendre. Elle lui demandait de rendre compte au verset 11. « Bien-aimé, imite-nous le mal ». Mais le bien, c'est probablement une citation du psaume 34. Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Au verset 12, et mon dernier point, alors que nous en arrivons à la conclusion, mon dernier point sera celui-ci. Ceux qui sont approuvés. Et vous lisez, vous entendez parler de cet homme Démétrius. Il est probablement celui qui amène cette lettre. Sinon, c'est difficile d'imaginer pourquoi son nom est mentionné là. C'est un nom païen, un converti d'une famille païenne. Son nom, Démétrius, signifie « consacré à la déesse de la récolte ». Il n'a pas abandonné son nom, mais il a abandonné sa vie ancienne parce qu'il est un homme réellement converti. J'imagine qu'il était également prédicateur, parce que ceux qui apportaient les lettres des apôtres, étaient eux-mêmes prédicateurs la plupart du temps. Et les apôtres faisaient deux choses en même temps. Ils envoyaient une lettre et un prédicateur qui apportait cette lettre pour aider les églises. Il semble que c'est ce qui se passe ici. Ainsi, il recommande fortement Démétrius, celui qui apportait cette lettre sans aucun doute. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Ceci est une recommandation extraordinaire. La vérité elle-même, en d'autres termes, 1 Timothée chapitre 3, il était qualifié, cette grande liste de ce qui qualifiait les anciens et les diacres que l'apôtre Paul nous a donné. Démétrius était en accord avec toute cette liste. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Comme les premiers diacres du livre des Actes, remplis de l'Esprit-Saint. Dans Galates chapitre 5, les fruits de l'Esprit manifestés dans la vie de ces gens, la joie, l'amour, la paix, etc. Et la vérité elle-même. Quand nous mettons à part des anciens et des diacres, sont-ils qualifiés selon ces critères? Est-ce qu'ils sont humbles? Non pas comme cet individu terrible dit au trèfle. Est-ce qu'ils ont servi dans l'Église? Non pas comme étant en premier pour prouver qu'ils peuvent faire des choses, pour se mettre en avant. Démétrius a un bon témoignage de tous et de la vérité elle-même. Ceci est essentiel. Que ces anciens soient des anciens de la parole de Dieu. Et si le pasteur prend la mauvaise direction, alors nous pouvons le reprendre et l'aider si ceci est nécessaire. Ils vont essayer de suivre sa direction normalement, mais vous pouvez leur faire confiance pour garder l'Église fidèle à la parole de Dieu. Est-ce qu'ils sont approuvés? Savez-vous, dans ces jours d'Internet, il y a tant de gens qui se mettent en avant eux-mêmes et ils se proclament pasteurs. Ils disent, moi, je vais avoir ma propre église, ma propre assemblée sur les réseaux sociaux et je vais être pasteur. Il y a des gens qui vont me suivre sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont de grands nombres de personnes qui les suivent. Et constamment, je vais publier mes commentaires, mes remarques, mon ministère et les gens vont suivre cela. Mais ils n'ont jamais été approuvés, mis à part par une église. Et beaucoup d'entre eux sont des femmes. L'Écriture dit non, pas les femmes. Mais ils se sont mis en avant eux-mêmes. L'Église n'a jamais dit « Madame, Monsieur, nous voudrions que vous fassiez ceci. Nous pensons que vous avez les qualités pour faire ces choses. » La plupart d'entre eux sont les dernières personnes que l'Église mettrait à part pour ce ministère. Nous avons eu la même expérience. Une ou deux personnes sont passées par cette église. Jamais nous les aurions mis à part pour le ministère, mais ils se sont mis à part eux-mêmes pour le ministère. La plupart d'entre eux ne venaient même pas à l'église régulièrement. Mais ils se mettent en avant eux-mêmes sur Internet et ils publient régulièrement des choses et les gens les suivent. C'est plein d'orgueil et d'ego et ceci est contraire à la parole de Dieu. Oh, j'espère que vous ne suivez personne de ce genre-là. Il y en a beaucoup sur Internet. Et 50% de ce qu'ils disent semble juste, mais 50% de ce qu'ils disent est entièrement faux. Et vous êtes trompés et amenés sur le mauvais chemin. Ils n'ont jamais été mis à part, ils n'ont jamais été éprouvés. Ainsi, faites attention à ce piège qui est un piège particulier pour les jeunes. Ne suivez pas une personne qui n'a pas été mise à part et approuvée et qui a les qualités pour un ancien. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Il est qualifié, Nous aussi, l'apôtre Jean, nous le lui rendons et vous savez que notre témoignage est véritable. Le temps est passé, chers amis. J'avais plusieurs choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec la plume et l'encre. Ceci ressemble à deux Jean. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun par son nom. Qu'est-ce que cela veut dire, chacun par son nom? Pour conclure, ils ne donnent pas leur nom, mais ils donnent l'instruction à Gaius de saluer les amis, chacun par son nom. Qu'est-ce qui est important ici, par son nom? C'est comme une manière de parler, une métaphore qui veut dire « saluez-les individuellement, personnellement de ma part ». Ne dites pas simplement « vous, Église, Jean, envoie ses salutations ». Non, parle-leur un par un et dis-leur que je pense à cette personne, que je lui envoie mes salutations. Ceci nous montre l'importance de l'affection, de l'amour fraternel. Ne faites pas ces choses de manière générale, mais faites-les avec soin, sincèrement. Parle aux individus, un par un. Exprimez cet amour fraternel, cette affection. Ne soyez pas paresseux envers l'amour fraternel. Le progrès personnel et spirituel est pris au sérieux. Ensuite, souvenez-vous de la responsabilité des églises dans son œuvre missionnaire. Ceci est tellement important. Et nous sommes ouvriers avec ces prédicateurs. Faites attention à ce ministère terrible de Diotrèphe qui est dans l'erreur et prend au sérieux le besoin d'approuver chaque ancien et diacre et prédicateur selon la parole. C'est là la troisième épître de Jean qui est pleine de conseils pratiques pour nous.